Chapitre 10. Tête à tête avec un tigre. Des crocodiles, nous passâmes à la préparation de nos nouveaux plans. Nous avions reconnu la partie nord du Kaligandaki aussi loin que nous le permettait notre permis provisoire. Nous voulions maintenant le descendre à travers la jungle jusqu'à la frontière de l'Inde. En aval de notre camp, le Kaligandaki, grossi du Marchandi, prenait sur notre carte le nom de Narayani. Il s'orientait alors vers le sud-ouest et coulait sur 64 km avant de passer en Inde. À 16 km au sud du camp, la rivière s'ouvrait en éventail et formait un réseau de bras qui encerclait les îles couvertes de jungle. La plus grande de ces îles avait plus de 12 km de long. Redoutant de nous égarer dans ce dédale, nous décidâmes de joindre d'abord par la terre un pavillon de chasse appelé Tiger Tops au cœur de la grande réserve de gibier du Chitawan. Nous pourrions y laisser un dépôt de quelques jerricanes d'essence, nous renseigner sur les rivières et repérer quelques jalons qui nous guideraient. Nous reviendrons alors au camp pour repartir vers Tiger Tops en descendant le Kaligandaki et le Rapti. Nous envisageons aussi de remonter une petite rivière, le Reu, qui s'enfonçait au cœur de la réserve et coulait à proximité du pavillon. Le départ fut fixé au lendemain, à la grande joie de Marie-Ange, qui commençait à en avoir assez de passer ses journées assises au bord de la rivière. Avec un peu de chance, elle pourrait rejoindre Katmandou par un des petits avions qui retient la capitale au terrain d'atterrissage de Mégoli. Ce petit aérodrome a été taillé dans la jungle en 1962, quand la reine Élisabeth et le prince Philippe sont venus participer à une grande chasse aux tigres et aux rhinocéros, organisée en leur honneur par le roi du Népal. Cette année-là, le tiers du budget népalais fut dépensé pour élever une cité de tentes, construire l'aéroport et rassembler 363 éléphants de Mégoli. Cette chasse fut l'une des plus importantes qui ait jamais eu lieu et sera sans doute la dernière des chasses royales népalaises. C'était la troisième fois que les Népalais offraient ce divertissement à la couronne d'Angleterre. En 1886, à Chitawan, le futur Édouard VII s'était offert 23 tigres, un rhinocéros et un ours, en une seule journée. Ces tableaux font frémir quand on songe qu'il s'agit aujourd'hui d'espèces en voie de disparition. Quand en 1962 eut lieu la chasse de la reine Élisabeth et du prince Philippe, ce dernier, ardent partisan de la protection de la nature pour des raisons politiques, annonça à son arrivée au Népal, alors que tout était prêt, qu'il s'était blessé son doigt de gâchette et ne pouvait donc pas tirer. On peut se faire une idée de l'immense variété de la faune de cette région en consultant la liste d'animaux soumis à feu le duc Windsor qui, en 1921, était venu chasser au Népal. Parmi ces bêtes destinées aux zoos de Londres figuraient un éléphanteau, un bébé rhinocéros, deux léopards, deux ours bruns de l'Himalaya, un léopard noir, un tigre, un renard du Tibet, un sambar, un tar, trois daims musqués et un grand nombre d'autres espèces. On nous apprit que nous pouvions gagner Mégoli par une piste partant de Barabtour. Le lendemain, après avoir fignolé la mise au point de nos aéroglisseurs, nous eûmes beaucoup de mal à trouver un véhicule pour nous amener à Barabtour et de là à Narayanga, un petit bazar décrépit sur le bord de la rivière. À Narayanga, il faisait une chaleur terrible et des essaims de mouches bourdonnaient dans les rues puantes. Si la veille avec Michael, nous respirions l'air frais des montagnes, nous étions maintenant plongés dans un enfer étouffant. Pendant des heures, nous fîmes toutes les rues du bazar à la recherche d'une jeep à louer. Au moment où nous allions capituler, Bob nous annonça qu'il avait trouvé un taxi qui nous emmènerait via Mégoli à Tiger Tops. Ce taxi était une vieille Dodge, un command-car imposant qui portait une étoile rouge sur le capot, chinoise ou russe, nous ne le sûmes jamais. C'était un surplus de surplus qui avait dû voir bien des guerres avant de connaître une vie civile aussi longue et aussi éprouvante. Ses pneus avant, déchiquetés, ne tenaient ensemble que grâce à des boulons de fer et le reste de l'engin était rafistolé avec de la ficelle. Seul passager, nous nous y installâmes à 2 heures de l'après-midi. À 4h30, nous étions toujours à Narayanga. Mais, entre-temps, notre command-car avait ramassé 20 personnes et un vrai zoo d'animaux domestiques. Dès le premier tour de roue, qui fit dégringoler quelques clients à la carcasse, nous nous mîmes à rêver à l'arche de Noé qui, au moins, avait l'avantage de flotter. Sans amortisseur, sur une piste caoutchouteuse, nous progressions par une série de secousses accompagnées de râles métalliques. Pour atteindre Mégoli, nous devrions traverser 55 km de terre cultivée, arrachée à la jungle et habitée par une nuée de colons venus de la montagne. Il nous fallut 3 bonnes heures pour couvrir cette distance en nous arrêtant tous les 4 ou 5 kilomètres pour mettre de l'eau dans le radiateur qui fuyait ou pour décharger des cochons. Couverts de sueur et de poussière, nous nous laissions mollement aller au hasard des chaos, tantôt assis sur l'épaule d'un brahme s'arrogant, d'un coolie crasseux ou d'une paysanne ranchonne. Ce voyage était rendu encore plus déprimant par l'idée que la jungle, vierge 10 ans plus tôt, avait été massacrée pour laisser la place à ces affreux villages champignons où se mêlaient le ciment, la tôle rouillée et les huttes de bambou. Le visage naturellement jovial des montagnards s'était transformé pour faire place à l'expression morne et au regard vide des visages modelés par la chaleur des tropiques, la malaria et les relations sociales déplaisantes qui semblent l'ordinaire des peuples agricoles des plaines riches. Le soleil se couchait quand nous atteignîmes Mégoli et sa piste d'atterrissage rectangulaire. Comme nous n'étions qu'à 15 kilomètres de Tiger Tops, nous décidâmes le chauffeur à poursuivre son chemin jusqu'au pavillon. Pour cela, il fallait passer à gué le Rapti et le Reu. Nous traversâmes donc l'aérodrome en diagonale et, en suivant péniblement une piste entourée de hautes herbes de marécage, nous atteignîmes enfin le bord sablonneux du Rapti. La rivière était large mais peu profonde et le camion ne s'enfonça dans l'eau que jusqu'aux essieux. À mi-parcours, il y eut un dernier hoquet et s'arrêta net sur un banc de sable. Le chauffeur descendit et nous en fîmes autant Michael et moi. L'arbre de transmission gisait dans le sable. Nous étions maintenant assez calés en mécanique pour deviner que nous en avions pour quelques heures. Un peu hâtivement, je pris avec Michael la décision de continuer à pied à travers la jungle. C'est ainsi que, dans les dernières lueurs du crépuscule, nous plongeâmes, sans armes, au cœur de la plus grande réserve de tigres et de rhinocéros du continent asiatique. Nous marchions en silence, sous les arbres majestueux, suivant un sentier où une jeep se serait difficilement frayé un chemin entre les troncs et les hautes herbes. Nous entendions les piaillements des oiseaux et de la jungle, les aboiements des chacals et beaucoup d'autres bruits que nous ne pourrions identifier. La nuit tombait lentement. Je me demandais avec anxiété combien de kilomètres nous aurions à marcher. Comme tous ceux qui se sont promenés dans la jungle, j'étais obsédé par cette pensée. Et si nous tombions sur un tigre ou un rhinocéros? Mais en effet, je n'avais pas peur car j'ai toujours eu du mal à croire que les cauchemars de ce genre puissent devenir réalité. Michael marchait en tête, de son pas élégant, si bien que je l'imaginais aisément avec un parapluie au bras. Après ce mois passé ensemble, je commençais à voir ce qu'il y avait derrière le masque de son éducation et à approfondir sa vraie personnalité que par bon goût il évitait soigneusement de révéler. J'ai toujours été étonné du peu que l'on sait sur son prochain et sur ce plan de soi-même. J'en étais encore à ses pensées quand, derrière moi, quelque chose jaillit d'un fourré dans un grand bruit de branches cassées et de feuilles froissées. Une forme sombre partit comme une flèche, sans doute dindin, pensais-je. Je scrutais des yeux les hautes herbes et les troncs d'arbres de la zone où j'avais vu la bête disparaître. À 20 mètres de moi, se dressait un tigre énorme, la fourrure de son cou toute hérissée autour de ses yeux menaçants, il me regardait. Combien de fois, en rêve, m'étais-je imaginé face à un tigre? Sceptique, j'appelais Michael. « Regarde, un tigre !»«
Où ?»«
Là, près du tronc d'arbre. »«
Je ne vois rien. »«
Là, à gauche du palmier, près du buisson. »«
Je te jure, je ne vois rien. »
L'air excédé, il fit mine de continuer son chemin. Je retins par le manche. Je commençais moi-même à avoir des doutes, mais je continuais de regarder. La chose n'avait pas bougé. On aurait dit une statue de tigre qui me fixait obstinément. J'écarquillais les yeux en essayant de me persuader que mon imagination me jouait un tour. « Mais enfin, regarde bien, répétai-je, moins sûr de moi. » Michael regarda.
« D'accord, je veux bien, il y a effectivement un arbre qui ressemble à quelque chose. »«
À un tigre, ça ressemble à un tigre. »«
Allez, ne fais pas les imbéciles, »
répliqua Michael, et il ajouta,
« Tu as raison, ça ressemble un peu à un tigre. »
La discussion aurait pu durer longtemps, mais au fond, nous pensions tous les deux qu'il s'agissait d'une hallucination. À force de scruter la pénombre, tout se brouillait. Soudain, le tronc d'arbre, qui ressemblait à quelque chose, fit un quart de tour, nous présenta son flanc superbement rayé et, comme s'il en avait assez de nous entendre discuter, s'en alla de son pas majestueux.
« Quand je te le disais, » murmurai-je, les jambes molles.
Nous commencions à nous rendre compte que tout ce que signifiait cette rencontre, nous avions un tigre sur les talons et nous n'avions pas de fusil, même pas un canif. La nuit était tombée et nous venions de le déranger alors qu'il allait se mettre à table. Nous avions sans aucun doute fait fuir le daim qu'il guettait. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi ? Nous continuions à parler à voix basse et à marcher sur la pointe des pieds, sans nous rendre compte de notre ridicule. Au point où nous en étions, à quoi bon passer inaperçu ? J'ai lu quelque part qu'il fallait parler haut, criai-je. Michael sursauta. Puis il reconnut que, du moment où le tigre nous avait vus, il n'y avait aucune raison de baisser la voix. Il n'attaque jamais un homme à moins d'être provoqué, dis-je, pour me donner du courage. Michael marchait maintenant d'un petit pas vif. Attends-moi, je n'ai pas envie qu'il m'attaque par derrière.
Figure-toi, répondit Michael, que c'est exactement ce que j'étais en train de penser.
Il saute toujours sur le dernier. Nous marchâmes de front. Le moindre frémissement de feuilles déclenchait un frisson tout le long de notre épine dorsale. Soudain, devant nous, apparut une petite lueur. Étions-nous arrivés ? Ce n'était malheureusement qu'une cabane qui marquait l'entrée de la réserve de rhinocéros. Elle abritait trois Népalais qui bavardaient autour d'une lampe. Ils nous demandèrent où nous allions.
« À Tiger Tops, c'est encore loin ?»«
Quelques kilomètres. »«
Est-ce qu'il y a beaucoup de tigres ?»
demanda Michael en espérant une réponse qui nous prouverait que nous avions vécu un cauchemar.
« Oh oui, plein !»
Nous reprîmes notre chemin, toujours hantés par le fleuve que nous avions rencontré. Il nous fallut marcher pendant plus d'une heure dans l'obscurité de la forêt avant d'atteindre l'autre rive, le Reux. Nous le passâmes à gué en trébuchant dans la boue. Nous étions exténués, à bout de nerfs. Sur l'autre rive, brillaient des lumières, nous étions arrivés. « C'est insensé d'être venu à pied à cette heure !» Ce sont les premières paroles que nous entendîmes, le directeur du pavillon, Chuck McDougall, un anthropologue américain que j'avais connu à Katmandou, nous introduisit dans une vaste pièce circulaire. Le toit conique, couvert de palmes, s'élevait à plus de 15 mètres de nos têtes. C'était une oasis de luxe. L'un des murs était longé par un bar élégant et bien fourni, des fauteuils club étaient groupés autour d'une grande cheminée centrale. On nous proposa un verre. Nous en bûmes un, deux et quelques autres. Nous avions oublié le goût d'une boisson glacée. Nous qui avions tant rêvé de glaçons au camp, voilà maintenant qu'il tintait dans nos verres. Alors que nous allions envoyer une jeep au secours de Bob et Marie-Ange, deux phares trouèrent la jungle environnante. Le commande-car arriva dans un bruit de ferraille. Il faut bien peu de temps pour passer d'un monde à l'autre. Notre camp de base et tous ses problèmes nous semblaient déjà loin. Nous ne pouvions pas encore croire que la veille encore, nous avions dormi sur une plage anonyme au cœur des monts Mahabraha que nous avions été les premiers à franchir par la voie des eaux. Et nous étions maintenant là, à nous prélasser dans le décor luxueux d'un hôtel construit pour les voyageurs avides de connaître la vie sauvage du Népal sans sacrifier leur confort. Nous nous sentions à la fois insolites et bien chez nous. 6 ou 7 touristes arrivés en avion de Katmandou à Megholi étaient installés devant le feu de bois où ils écoutaient attentivement un ex-officier de l'armée des Indes attaché à la réserve qui leur parlait du tigre royal du Népal. Nous lui prêtâmes l'oreille heureux d'en savoir davantage sur notre ami de la jungle. À l'origine, le tigre vivait en Asie centrale, mais on le trouve maintenant sur tout le continent asiatique. En se déplaçant vers le sud, il est devenu plus puissant et plus rouge de pelage. Le tigre royal du Népal est le plus long. Le tigre de Sibérie, tout en étant plus gros, a la queue plus courte. La queue courte, pour n'importe quelle espèce animale, est toujours l'indice d'un climat froid, alors que la couleur est en relation avec l'environnement. En Sibérie, pays de neige, les tigres sont presque blancs. Quant aux tigres du sud-est asiatique, ils sont les plus petits. Au Népal, il y a quelques années, les tigres se comptaient encore par milliers. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques centaines. La destruction de la jungle y est pour quelque chose. Mais le principal responsable est le bétail qui ravage les sous-bois, enlevant leur nourriture aux cerfs et aux biches dont se nourrissent les tigres. Nous apprîmes aussi que les tigres ont un rythme de reproduction très lent. Les portées ne sont que d'un ou deux petits, rarement plus, et la femelle, dans les meilleures circonstances, ne met bas que 2 ou 3 fois durant les 20 années que peut durer sa vie. La menace qui pèse sur la race est tragique, car plus que le lion, le tigre a droit au titre de roi des animaux. Agile et puissant, il peut soulever dans sa gueule un petit buffle pesant plus de 300 kilos, alors qu'il en pèse lui-même rarement plus de 350. En écoutant l'officier indien, je me sentais coupable d'avoir participé à des chasses au tigre avec Boris en 1963. Comme les choses avaient changé depuis, malheureusement, au désavantage du tigre. Je me souvenais aussi de l'ancien Maharaja de Sarkuja, qui détenait les records du monde avec un tableau de 1777 cadavres de tigres. Aujourd'hui, plus personne n'oserait se vanter d'une pareille prouesse, alors qu'il y a 10 ans, On s'en glorifiait et le fils du Maharaja lui-même était fier d'avoir abattu près de 1000 bêtes. Sans les tigres, l'Inde et le Népal ne seraient plus les mêmes. Aucun animal ne tient une place aussi importante que la leur dans le mythe et le folklore de ce pays, et même, on peut le dire, dans l'esprit de tous les hommes de la terre. Notre inconscient est encore hanté par la peur primitive de ce fauve. Hélas, voilà le roi de la jungle réduit à trouver refuge dans quelques minuscules enclaves, telles celles de Chitowan, de loin la plus importante et la plus belle qui leur soit réservée.
Nous avons attaché de jeunes buffles à des piquets tout autour du pavillon, poursuivait le conférencier. Nous espérons ainsi attirer les animaux et les habituer à notre présence.
Comme il est triste de voir ces fauves réduits à jouer le rôle de bêtes curieuses pour touristes curieux. Et pourtant, c'était bel et bien leur dernière chance. Plus il y aurait de gens pour les voir, les admirer et les connaître, plus l'espèce serait protégée et aurait des chances de survivre. Nous passâmes la nuit dans l'une des grandes maisons sur pilotis qui flanquait la grande salle circulaire. Les lits étaient excellents. Il n'y avait pas d'électricité, de peur que les générateurs n'éloignent les bêtes. Mais nous disposions de tous les autres avantages du confort moderne. Tandis que je sombrais dans le sommeil, la tête pleine de tigres et hantée surtout par celui qui était venu nous contempler de si près, je sentais mon ancienne angoisse se raviver à la pensée que, dès le lendemain, nous devions repartir pour Davega avant de tenter de retraverser toute la jungle par les rivières.